Nous allons parler d'Haïti juste avant de rejoindre Christian Page. Parmi les assaillants, 6 sont entre les mains de la police. On parle d'Haïti pour l'assassinat. 6 sont entre les mains de la police. 5 voitures ont été récupérées. Malheureusement, la population, dans leur colère, a brûlé 3 de ces véhicules. Donc, ça empêche l'enquête de se poursuivre. Parmi les gens qui ont été arrêtés, il y a un Américain qui fait partie des 6 personnes. La police haïtienne indique que l'AFP, Mathias Pierre, ministre chargé des questions électorales, a fait cette mention-là. Il a en main les auteurs physiques, mais là, il veut ajouter à ça qui est le commanditaire. Ils appellent ça les auteurs intellectuels. Plusieurs auteurs possibles de l'assassinat du président ont été trouvés et ont été mis en refuge présentement à Port-au-Prince. Ils sont encerclés par la police et c'est ce qu'a déclaré de son côté l'émissaire de l'ONU, des Nations Unies dans ce pays, Hélène Lalime. Alors, la chasse se poursuit. Est-ce qu'on va arriver avec des résultats? Est-ce qu'on va comprendre un jour le scénario sous-jacent à cet assassinat? On verra bien. Christian Page, enquêteur du paranormal. Dans ton enquête, est-ce que tu sais s'il y a du culex pipiens sur Vénus?
Non, mais je pourrais te parler de possibles maringouins sur Vénus, par exemple.
Oh, j'espère que non.
Mais je veux pas y aller, oui. Oui, écoute Jean-Luc, c'est vrai que depuis quelques mois, depuis surtout l'atterrissage là, de la sonde Persévérance sur Mars,
oui.
On est émerveillé semaine après semaine. Hein. Tu, on regarde ces sondes, la sonde Persévérance et son petit hélicoptère, le Ingenuity, nous envoie chaque semaine des images si fabuleuses que tu as l'impression que ça a été pris dans la cour derrière chez toi. Et pourtant, ça se passe à des millions de kilomètres de la Terre. Et on a un petit peu de nous là-dedans parce qu'on sait que la pilote du robot Persévérance, Farah Alibé, est une Québécoise qui a fait ses études à Montréal. Donc, c'est bon pour notre estime.
Oui, c'est bon pour notre estime, mais en même temps, je ne veux pas t'amener dans le complot, mais tu te souviens quand on était sur la Lune, il y a des gens qui disaient que ça avait été fait en studio à Hollywood, etc.
Absolument.
Alors là, si ça ressemble dans notre cour arrière, on s'entend qu'il y en a qui vont dire « Bah, c'est ça, ils ont été dans le désert. » mais...
Tu ne pourras jamais faire taire les complotistes.
D'accord.
Et donc, à partir de là, et on voit aussi chaque semaine, donc l'actualité spatiale, elle est omniprésente. Il y a bien sûr ces gros succès sur Mars. Il y a ce bras de fer également qui se joue entre 3 grands milliardaires pour savoir lequel va devenir le nouveau parrain de l'espace.
Ben oui, Branson.
On pense à Bezos, Musk et Branson, bien sûr, qui doit faire un vol dans l'espace au cours des prochains jours. Il a obtenu l'autorisation de l'aviation civile américaine pour pouvoir procéder à cet envolé-là. Donc, c'est une effervescence. Et à travers tout ça, la NASA annonce un programme beaucoup plus ambitieux et, crois-moi, beaucoup plus difficile,
ah oui.
Celui d'envoyer 2 sondes vers Vénus. C'est assez amusant parce que Vénus, finalement, c'est notre voisine. Hein? La Terre est située entre Mars, en allant s'éloignant du Soleil, et Vénus en se dirigeant vers le Soleil. Et Vénus, c'est une planète qui a fait rêver. Elle est connue depuis toujours. Et à partir du moment où on a commencé à développer des lunettes astronomiques assez puissantes, au 19e, 20e siècle, on a vu que c'était une planète dont la taille, la masse ressemblait à la Terre. C'est une planète qui est entourée également d'une atmosphère, comme la Terre. Il y a des nuages et on pouvait observer aux lunettes astronomiques des mouvements dans les nuages qui montraient bien que la planète avait une activité météorologique.
Et on sait que l'homme vient de Mars et la femme de Vénus.
La femme de Vénus, bien sûr. Et tu comprends, dans les années 50, on arrive à nos extraterrestres. Dans les années 50, quand on a commencé à recevoir les premiers récits de soucoupes volantes, comme on disait à l'époque,
oui.
Quelques illuminés se sont annoncés en disant « J'ai des contacts avec les frères de l'espace. » Et 9 fois sur 10, ces frères de l'espace, tu l'auras deviné, étaient des Vénusiens. Je sais pas si c'était le nom de la planète, mais ces Vénusiens étaient toujours décrits comme des grands, blonds, beaux, des femmes. Très plantureuse, donc tu vois, genre.
C'est pas Raël qui a pas tenté ça, non?
Raël l'a récupéré. Les Elohim, mais eux sont plus loin, ils sont de l'autre côté de la galaxie à 100 000 années-lumière.
Okay.
Donc, Vénus a fait fantasmer, mais il faut attendre les années 70 pour découvrir que Vénus n'est pas ce monde qu'on imaginait. Hein, si on envoie une sonde sur Vénus, tu vas comprendre le défi. Hein. Dès qu'on entre dans l'atmosphère de Vénus, ben on doit faire face à une pression atmosphérique 90 fois plus grande que celle de la Terre. C'est comme si tu allais faire de la plongée sous-marine à 1000 mètres de profondeur. Donc, tu t'imagines cette cette force qui t'écrase. L'atmosphère est composée de dioxyde de carbone, donc un gaz empoisonné. Et une fois que tu t'es posé au sol, t'es pas tiré d'affaire, parce que la température avoisine entre 450 et 500 degrés centigrades. C'est une température assez élevée pour faire fondre le plomb. Donc, toutes les composantes de ton vaisseau doivent pouvoir résister à cette température. Et ensuite, même si tu te crois tiré d'affaire à ce moment-là, quand il pleut sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique.
C'est pas trop bon, ça.
Ah, tu vois, c'est un monde excessivement hostile.
Je suis sûr qu'il n'y a pas de culex, pipi.
Non, il n'y a pas de ça. Et ceux qui ont eu des bons succès, on a envoyé des sondes autour de Vénus, on a cartographié sa surface, mais les Soviétiques, dans la deuxième moitié des années 70, début des années 80, ont réussi dans un programme ambitieux, les sondes Venera, à poser des vaisseaux sur Vénus. Ces vaisseaux n'ont transmis des images que pendant quelques minutes, une heure à peu près au maximum, avant de tomber en panne à cause des conditions sévères qu'il y a sur la planète. Alors, pourquoi y retourner?
Ben, c'est ça.
Ben, parce qu'il y a toutes sortes, on a une passion pour la recherche de vie extraterrestre. Donc, on va en connaître plus sur la planète, sur sa morphologie. Mais une hypothèse évoque la possibilité que dans les hautes couches de l'atmosphère de Vénus, il pourrait exister des formes de vie aérienne. Évidemment, c'est infinitisément la possibilité qu'une telle forme de vie ait pu se développer, mais on ne veut rien mettre de côté. Donc, les Américains comptent envoyer d'ici, entre les années 2028 et 2030, envoyer deux sondes vers Vénus, dont
l'une...
Ça prend à peu près 15 mois, envoyer la sonde jusqu'à la planète Vénus. Okay. Une fois arrivée là, une de ces deux sondes, la Da Vinci Plus, va larguer un module, un atterrisseur, qui va entrer dans l'atmosphère de Vénus, colliger de l'information, prendre des échantillons pour essayer de voir s'il existe des molécules biologiques qui pourraient exister dans l'atmosphère de Vénus et témoigner de la présence d'une quelconque forme de vie basée sur le carbone. Mais on est loin de ça, mais le projet est très ambitieux. Il faut savoir que l'Agence spatiale européenne a donné également, en a ajouté une couche en disant « Nous aussi, pour la même période, on va envoyer une sonde. » Donc, ce n'est plus trois sondes qui, d'ici 2030, prendront la route de Vénus, mais trois. Donc, les deux américaines plus la sonde européenne. Et ça va nous permettre d'en savoir davantage sur ce monde qui est excessivement hostile.
Tu soulèves quelque chose d'intéressant. Vois-tu, les Américains... Non, mais c'est parce que là, tout le monde s'est mis ensemble pour trouver un vaccin, tu comprends?
Oui, oui.
Et là, tu me dis, bon, mais la France, elle aussi, est intéressée à aller explorer les alentours de Vénus, alors que les Américains aussi le font. Pourquoi ils ne font pas un genre de participation commune?
Ben,
c'est
tu comprends
la compétition là-dedans?
Parce que dans certaines agences, et je pense par exemple à l'Agence spatiale européenne, mm-hmm. il y a des intervenants dans l'agence. C'est un conglomérat de différents pays. Et certains pays qui sont membres de l'Union européenne sont pas nécessairement du même avis que les Américains. Donc, on veut pas coucher dans le même lit, par exemple, que les Émirats arabes unis qui pourraient contribuer à la mission européenne. Donc, il y a tout ce contexte-là qui fait qu'il y a des enjeux à la fois, bien sûr, scientifiques, économiques, mais politiques, qui fait que parfois les agences vont agir de manière indépendante les unes par rapport aux autres.
Mais une fois que tout le monde va avoir... Tu sais, ça me fait penser à aller dans la station spatiale. Une fois que tout le monde est capable d'y aller, ils sont prêts à y aller ensemble, tu sais.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est amusant que tu mentionnes ça parce que, le plus gros programme, le programme le plus ambitieux pour l'instant, qui est sur les planches à dessin de la NASA, c'est le projet Artemis, qui doit envoyer des hommes et des femmes sur la Lune d'ici 2025. Et là, on voit une ouverture avec des nations étrangères parce que c'est un programme qui sera excessivement coûteux. Ce sera la première étape avant de s'envoler vers Mars. Donc, on veut construire une plateforme de lancement. Il faut des sous. Il faut une collaboration internationale. On fait même appel à l'industrie privée, dont bien sûr Elon Musk.
Est-ce que t'entends la
compagnie SpaceX? Oui.
C'est comme le décompte du lancement d'une fusée. T'es parti.
Absolument, Jean-Luc.
Papa Christian Page, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Bye-bye. Bonne fin de journée à toi.
Au revoir, oui, à la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que ça a su vous plaire. On se donne rendez-vous demain, bien sûr. Au revoir.